France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Irène Dresel. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons un extrait de La Nymphe des Bois de Sibelius. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à l'ENSI, l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris, un établissement qui propose à des lycéens issus de milieux défavorisés de suivre durant une semaine un stage de préparation au concours des écoles d'art. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Guillaume Ficheux à la prise de son. Bonsoir Irène Dresel.
Bonsoir.
Votre nouvel album Rose Fluo est sorti le 26 janvier. Vous êtes actuellement en tournée, occasion pour nous de vous accueillir pour savoir d'abord comment vous êtes venu à la musique, comment vous la pratiquez. Alors, votre ascendance offre de bons indices avec un père ingénieur dont j'ignorais qu'il serait en régie ce soir, une mère qui dirigeait une agence de voyage avant de s'occuper de ses enfants et d'écouter toute la journée de la musique classique avec des disques notamment qui venaient d'un oncle directeur de la programmation musicale sur Radio Classique. Alors, technique, voyage, musique, ça préfigure un destin de musicienne électro qui part souvent en tournée, mais blague à part. Votre mère jouait aussi beaucoup de piano à la maison, votre sœur étudiait le violon et on vous a mis au piano au conservatoire, ai-je lu, à l'âge de 7 ans. Ça veut dire que la musique, elle était omniprésente dans votre enfance?
Oui, la musique était complètement omniprésente. Donc avec une grande part de musique classique, notamment avec ma mère et ma sœur, comme vous le disiez. Ma sœur jouait énormément de violon, donc ça faisait partie du paysage sonore de la maison.
Mais vous avez arrêté la musique tôt, 11 ans. Vous avez poursuivi la danse classique. Alors, c'est vrai que quand on vous voit sur scène, il y a quelque chose de très singulier. On dit un port altier, c'est tout à fait votre cas. La danse classique, elle peut être aussi violente pour les jeunes corps, mais vous pensez que vous en avez gardé quoi de ces années de danse?
J'en ai gardé un souvenir... J'en garde un souvenir un peu... Enfin, il y avait une rigueur qui était vraiment là, qui, je pense, accompagne une personne tout au long de sa vie. En fait, cette rigueur qui me lâche pas. J'ai eu deux professeurs, un professeur russe, Monsieur Moïsev, et une professeure, Liliane Kochanski. Et donc, j'avais ces deux professeurs. Je me rappelle Monsieur Moïsev qui me disait toujours le dos planche, il fallait se tenir très droit. Et là, j'ai pas vraiment gardé cette posture. Il faut que je me tienne un peu plus droite. Mais ce qui est drôle, c'est que sur le nouveau live là, sur cette troisième tournée, il y a un moment dans le spectacle où sur un morceau qui s'appelle Carmen, donc un nouveau morceau qui est sur l'album, j'ai au pied déjà des petits chaussons de danse. Et je fais une petite danse avec un essai de développer, de jeter avec ma jambe. Mais bon, je sais pas si apparemment ça va, c'est pas trop mal, mais j'ai quand même pas dansé depuis longtemps. Mais
vous avez pas une barre chez vous, non?
Non, mais l'autre jour en loge, j'étais en train de m'entraîner entre deux tables pour justement lancer ma jambe et faire des jetés de jambe avant de monter sur scène. Et je crois que j'en ai besoin parce que sinon, en musique techno, on est derrière son bureau avec toutes les machines et ça perd en... Le côté physique, voilà, c'est
corps.
Ça. Donc là, effectivement, donc la danse classique revient cette année, depuis janvier.
Hâte de voir ça. Alors, pour sauver un peu l'enfance, une partie de votre scolarité dans une école privée très stricte, Irène Dresel, et puis des années collège qui sont pour vous synonymes de rigueur, de discipline. Il a fallu, je crois, vous exfiltrer vers un lycée public, puis ce seront l'école des Beaux-Arts de Paris, puis l'école des Gobelins. Qu'est-ce qui vous a fait vous diriger à ce moment-là vers des études d'art plastique, de plasticienne même?
Ça a été toujours au fond de moi. Quand j'étais au lycée, je voulais faire de la photo, je voulais être photographe.
Et vous aviez des modèles en tête? Il y avait des photographes que vous admiriez?
Oui, il y en avait plein. À l'époque, j'étais fan de Lise Sarfati, du travail. En fait, c'était des travaux de portraitiste qui m'intéressaient beaucoup.
Donc, goût pour la photo.
Goût pour la photo. Tous les midis au lycée, j'allais dans ce labo photo qui était intégré au lycée. J'étais toute seule, personne n'y allait. Donc, je ne déjeunais pas. Ouais. Parce qu'on parlait de déjeuner avant l'émission. Je ne déjeunais pas et j'allais tirer mes photos. Et puis, je me suis liée d'amitié avec un monsieur qui avait son petit labo photo à 500 mètres de là où on habitait. Et après, quand il est parti à la retraite, il m'a donné tout son matériel photo. Et de là, je me suis inscrite dans une prépa art à Rueil-Malmaison, qui m'a ensuite menée aux Beaux-Arts de Paris. Et effectivement, en parallèle, j'ai fait les Gobelins en photo. Mais j'étais aussi aux Beaux-Arts en section photo, peinture, installation. Mais mon médium le plus fort, c'était la photo.
Et puis la vidéo qui arrive quand même aussi.
Ouais. Mais moins.
Moins. Et puis, on arrive à cette scène primitive en juillet 2008, à l'occasion de We Love, où vous assistez à un set du DJ James Holden, au pavillon Chêné du Roi. Quel souvenir vous avez de cette soirée, Irène Drezel ?
C'était une soirée, donc c'était un soir d'été, donc avec tout ce que ça comporte dans les festivals, les petites guirlandes, les choses, voilà, une atmosphère un peu comme ça. Et c'est des copains à moi qui m'ont tiré dans cette soirée. Moi, je voulais rester à la maison, je voulais me coucher tôt. Ils m'ont dit non, non, non. Et puis j'avais une malle à déguisement. Ils m'ont dit viens. Et ils sont sortis tous les déguisements. Ils se sont mis à se déguiser. Ils m'ont emmené. Et puis, en fait, c'était une soirée géniale. Et c'est vrai que le set de James Holden m'a littéralement fascinée. Moi, j'avais jamais écouté ce genre de musique avant. Et après, je suis retournée le voir toute seule à une soirée. Ouais, toute seule. Et je me suis dit, je crois que j'aimerais bien faire ça un jour.
Voilà. Vous étiez encore aux Beaux-Arts à l'époque ?
Ouais, j'étais encore aux Beaux-Arts, bien sûr.
De fait, il y a une vidéo dont vous avez voulu, une vidéo que vous avez réalisée, Irène Drezel, dont vous vouliez composer vous-même la musique. Il y a ce goût qui commence à s'immiscer, sauf que la musique électronique, elle requiert évidemment de maîtriser le logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur. Alors, comment est-ce que vous avez fait avec ça ? Comment est-ce que vous êtes formé ?
Alors oui, donc c'était une vidéo avec qui représentait un vol de vautours dans le ciel en Espagne qui formait une forme de cœur. Donc c'était une vidéo assez courte et j'avais envie de lui mettre une musique électronique. Et pour ça, finalement, c'est lors d'une soirée, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit « Si tu veux, moi, demain, je peux passer chez toi, je te montre. »
Malin, celui-là.
Ouais, il est passé, je me souviens, c'était un jeudi matin, il est passé, j'habitais à Paris, il est venu dans mon appartement, il y est resté 2 heures, il m'a juste montré de quoi faire avec le petit logiciel intégré qui s'appelait GarageBand. Et il est reparti et ça ne m'a plus quittée. Et à partir de là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, c'est extraordinaire, c'est immédiat, ça a l'air fou, ça a l'air... J'ai l'impression que je me suis dit... En fait, c'était un nouveau médium qui s'ouvrait. Et
vous êtes tombée dedans immédiatement.
Complètement. Mais complètement. Plus rien n'existait, plus rien. Je ne voulais... Plus rien ne m'intéressait. Je voulais faire de la musique électronique. Et quand j'ai une idée dans le crâne, c'est... Voilà.
Alors, là, vous avez aussi suivi un stage très intense à l'école SAE d'Aubervilliers. Et à la fin du stage, vous composez un morceau et l'un de vos professeurs, JMD, vous dit « c'est bien, il faudrait que tu continues, mais concrètement, pour poursuivre, vous aviez déjà commencé une autre formation de plasticienne, mais vous prenez, vous, Irène Drezel, une décision un peu radicale, quitter Paris, quitter la ville ». Pour prendre le très beau titre du morceau, du très beau morceau Drone. Pourquoi ce choix ?
Pour m'extraire de toute distraction possible. J'ai construit un espèce de lieu au calme, isolé de tout. Au début, j'étais partie en Angleterre. Ça a duré 3 mois, c'était en janvier 2012, et puis ça a été un échec, j'ai pas réussi à m'intégrer, enfin bref. Donc je suis rentrée en France, et c'est mon frère qui m'a dit, mais tu sais, on a cette maison à la campagne, on n'en fait rien, sinon papa va peut-être la revendre. J'ai dit, attends, moi, c'est vrai que c'est une très bonne idée, et j'y suis allée, et en fait, à partir de là, plus personne ne pouvait me déranger, puisque le téléphone capte très mal. Pour venir me voir, il faut faire 1h30 de route. Et là, j'ai pu enfin me concentrer, parce que sinon, je suis quelqu'un de très sociable, trop sociable. J'ai du mal à dire non, j'allais au vernissage, aux anniversaires, j'habitais en plein centre de Paris. J'étais tout le temps distraite, et je me suis dit, mais comment je vais réussir à m'en sortir et à mener à bien mon projet de musique électronique et sortir un album, puisque j'avais ça en tête, vouloir, je voulais tout de suite faire un album. Et voilà, donc j'ai tout construit, j'ai fait une espèce de forteresse dans cette maison de campagne.
Vous n'avez jamais douté à ce moment-là, au début, avant justement le premier album, est-ce que j'ai fait le bon choix ?
Si, en fait, non, mais je travaillais à l'époque à la réception d'un hôtel 4 étoiles à Paris. Et comme on s'entendait très bien et ça faisait longtemps que je travaillais pour eux, ils m'ont proposé en fait de faire du télétravail. Donc à l'époque, c'était novateur, on était en 2012-2013. Et donc j'ai pu devenir community manager pour cet hôtel en travaillant depuis chez moi à la campagne. Je comptais mes heures et à côté, je faisais ma musique. Mais au tout début, je continuais encore d'être à la réception et je faisais les allers-retours jusqu'au moment où ils m'ont délocalisé, on va dire.
Vive le télétravail. Alors, je me demandais aussi, comme vous êtes venu sur le tard, je mets beaucoup de guillemets à la musique électro, comment vous étiez forgé une culture musicale sur ce qui s'était fait avant vous. Mais à propos de celles et ceux qui vous ont précédé, vous avez répondu l'année dernière à l'invitation de Jean-Michel Jarre, qui a souhaité proposer des remixes à des musiciennes et musiciens. Alors l'affiche est belle, hein, parce qu'à vos côtés, Ren Reza, il y a quand même Brian Eno, il y a Martin Gore, il y a Armin van Buuren, entre autres. Mais sur le rapport à l'histoire dans l'électro, écoutez, Jean-Michel Jarre, je recevais le 1er juillet 2021 dans cette émission.
Pierre Schaeffer est en fait le premier DJ au fond, c'est-à-dire qu'il a fait, c'est lui qui a commencé, il a tout inventé, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les loops, les boucles, les sons, les échantillons. Le fait de partir de l'idée que la musique n'est pas seulement faite de notes basées sur le solfège, mais faite de sons. Et puis à la manière des Égyptiens ou des traditions antiques, j'en ai parlé souvent avec lui, l'idée qu'au fond, on est entouré de bruit. Et que dans de l'univers sonore, un peu à la manière des sculpteurs, quand les Égyptiens disaient qu'en fait, dans le roc, les sculptures existent virtuellement et que le rôle du sculpteur, c'est de les révéler aux autres. Mmh. Et en fait, le travail de Pierre Schaeffer, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire que dans le maelstrom sonore, de sortir des sons et de leur rendre un sens musical. Il rappelait toujours que ce qui différencie un bruit d'un son musical, c'est le geste, c'est la main du musicien. Mmh.
Alors ça, c'est le rapport de Jean-Michel Jarre avec ses aînés. Pour vous, l'aîné, c'est Jean-Michel Jarre, Irène Dresden. Quel rapport vous avez avec l'histoire de la musique électro ?
J'ai un rapport assez distancié. En fait, je pense que, bizarrement, je fais de la musique électronique comme je pourrais faire de la peinture. Donc, je ne sais pas si j'ai une très grosse culture musicale. De ce qui s'est fait. Bien sûr, j'ai écouté des choses et j'en écoute encore. Mais en tout cas, Jean-Michel, il est beaucoup plus avant-gardiste que moi. Il est beaucoup plus en avance sur son temps. Il y a un jet lag entre lui et moi. Lui, il est déjà en Chine. Il est très, très, très moderne.
C'était quoi de le rencontrer ? Ça a provoqué quel type d'émotion, sensation ?
Ça a été assez naturel. On s'entend très, 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 très bien. On s'envoie des textos, il me met des émojis roses.
Ah oui.
On s'entend très bien et c'est assez naturel en fait. C'est vrai que il a même rencontré mes parents. Il est vraiment très agréable et oui, il est en avance sur son temps. Enfin, moi je trouve. Je me trouve vraiment vieille à côté de lui, vraiment, mais vraiment.
Je vois un peu ce que vous voulez dire, même si l'état civil dit autre chose. Alors, sur votre histoire, donc, un premier EP en 2017 et ce premier album dès 2019, donc composé et enregistré dans votre studio, c'est Hyper Cristal, et tout de suite une signature, une Dresel's Touch, si je puis dire, qu'on va essayer d'analyser un petit peu, mais... pour proposer à nos auditrices, auditeurs une première plongée dans votre musique, j'ai choisi de le faire avec la version édite de Je t'aime, qui n'est pas une reprise de Lara Fabian. Il faut me préciser comment naît un morceau, comment naît ce morceau, ça commence par quoi ? Ça commence par une boucle que vous trouvez, par une mélodie, par une image ?
Non, je crois que le morceau Je t'aime, il est né du live. Parce qu'en fait, j'ai deux manières de composer. Soit je compose un morceau de rien, donc il y a beaucoup de morceaux qui démarrent de rien, d'une page vide, enfin d'une page blanche, enfin d'un écran blanc, on va dire plutôt. Et puis il y a des morceaux qui naissent de ce qui est créé en live. Donc c'est des Parce qu'en fait, en live, il y a des petits bouts de clips qui sont mélangés avec des petits clips audio qui sont mélangés avec d'autres clips audio qui génèrent d'autres clips audio. Et le morceau Je t'aime, il est très complexe, mais je ne saurais même pas dire de quoi il est né vraiment.
Mais ça veut dire que pendant un live, vous avez entendu que là, il y avait quelque chose, ou alors est-ce que vous enregistrez tout pour réécouter et vous dire « Ah tiens, là, il faut que j'exploite ce moment-là
je... » Non, c'est quand, quand le live est retranscrit sur le logiciel, en fait, qu'il y a des... Quand je fais mes transitions, je suis obligée de les construire en amont, les transitions. Et c'est quand je fais une transition entre un morceau et un autre, j'utilise des bouts d'un morceau que je mélange avec des bouts d'un autre et ça crée autre chose.
Mmh. En l'occurrence, ça crée Je t'aime.
Bah, là, Je t'aime, il est né, je crois, d'un... Si je me souviens bien, d'un bout que j'ai après mis en... Que j'ai changé, en fait, l'octave... En fait, je triture les choses jusqu'à obtenir... Mais il est assez complexe, ce morceau.
Bon, on va écouter un peu de cette complexité.
Vous avez choisi le plus complexe.
Je t'aime, un morceau déjà ancien d'Irène Reyzel. Bon, il y a 3 ans, donc c'est pas si vieux. Mais... Et avant d'en venir à ce nouvel album, on va quand même revenir sur une expérience à part avec la composition de la musique du film À plein temps d'Eric Gravel, qui vous a valu le César 2023 de la meilleure musique. Vous êtes la première femme à remporter ce César de la meilleure musique originale. Je sais que vous avez eu très peu de temps pour la composer. Comment est-ce que vous avez procédé, Irène Reyzel ? Vous aviez les images, vous aviez un montage.
Le film était fini, oui, bien sûr. Il était fini de monter. Il y avait quelques ajustements de montage, mais c'était fini.
Ouais.
Ils m'ont appelé et 2 mois et demi plus tard, il y avait la première projo presse. Donc,
fallait pas traîner.
Et comme ils étaient dans l'urgence, j'ai fait une dizaine de propositions à Eric sur une scène que j'aime beaucoup. C'est la scène où son badge ne passe plus.
Désactivé.
Elle se fait renvoyer. Et je lui ai fait une dizaine de propositions assez courtes d'une quarantaine de secondes en lui disant si là-dedans tu trouves pas ton bonheur, faut chercher quelqu'un d'autre. Et il a sélectionné certaines scènes qui étaient... Enfin, les choix qu'il a fait étaient ceux que j'espérais qu'il fasse. Donc je me suis dit, ah, c'est bien, on va bien s'entendre. Et ensuite, on a cherché la couleur du film, sachant qu'il avait des exigences très particulières pour ce film. Il voulait une musique typée années 70, sans drum, sans kick, où on ressent le kick, mais qu'il n'y en ait pas. Et avec des synthés. Il avait vraiment une idée très... très...
Il y avait un cahier des charges, des contraintes.
Il y avait un cahier des charges, exactement. Et puis voilà, on a essayé de trouver la couleur du film et puis on est parti. Le film se passe sur 9 jours, donc ensuite il y avait un tableau Excel avec toutes les scènes et puis divisé sur les 9 jours. Parfois je proposais des musiques sur tel ou tel jour et il les rebasculait sur un autre jour. Enfin voilà, on a travaillé vraiment main dans la main. Enfin, on a passé... Je pense qu'on se parlait 10 fois par jour au téléphone pendant 2 mois et demi. Vraiment, c'était non-stop. Il n'y avait que ça. Je venais de rendre mon deuxième album. Il était parti en mastering, donc j'avais du temps. Et j'ai fait que ça.
Alors, pour exemple, puisque cette musique donc, suit le rythme des journées de l'héroïne, incarnée par Laure Calamy, on écoute « Jeudi soir ». Jeudi soir, extrait de la bande originale du film d'Eric Gravel, À plein temps, bande originale récompensée par un César. Pour vous, Irène Reyzel, est-ce que vous avez du coup envie de renouer avec cette expérience de travailler pour le cinéma ?
Oui, je vais le faire, j'ai d'autres projets en cours. Après, c'est toujours la même chose, c'est la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Il faut que ça se passe bien, il faut qu'on se comprenne, il faut que ça ait du sens en fait.
Et vous imaginez travailler sans images ? Pour un film, parce qu'il y a ces deux cas de figure, hein, les compositeurs de musique de film, on en a reçu quelques-uns, travaillent parfois très en amont du film, c'est-à-dire que c'est juste dans un scénario, dans un échange. Est-ce que ça ce serait possible pour vous ? Moins envie de ça.
Il faudrait quand même que je vois quelques images. Enfin, ouais, ça me paraît un peu étrange, mais oui, sur un ressenti, ça veut dire. Ouais. Je sais pas. En fait, ça, c'est ma seule expérience. Enfin, non, j'avais fait une autre expérience. J'avais fait la musique d'un film muet, Loulou de Pabst, pour la Cinémathèque française.
Ouais. Grand film.
Ouais. Et bah, là aussi, j'avais les images, j'étais à l'image. Donc, moi, j'ai toujours fait des choses à l'image. Je vois ce que vous voulez dire, oui, pourquoi pas. Mais il faut que je voie des images quand même. Sinon.
On guette, en tout cas, les prochaines bandes originales d'Irène Reisen. Mais pour l'heure, ce qui nous occupe, c'est donc ce troisième album, Rose Fluo. Mais alors, qui prend sans doute tout son sens en n'oubliant pas le deuxième album, Kinking Dogma, sorti en 2021, comme une sorte de miroir inversé d'Hypercristal. Rose Fluo. Est-ce que vous bouclez une trilogie ? Est-ce que, alors, il faut revenir aussi à cette formule qui vous importe depuis vos années aux Beaux-Arts, attraction plus répulsion égale fascination. Ça guide toujours votre travail, Irène Reisen ?
Toujours. Et dans guide ma vie, en fait.
C'est vrai. Et dans cette trilogie, ça, c'est une déclinaison triptyque.
Oui, c'est un triptyque. C'est vrai que j'imagine ces trois albums comme une seule et même pièce. D'ailleurs, l'illustrateur qui a réalisé la pochette du troisième disque est la même personne qui a réalisé la pochette du premier disque. Oui, c'est un ensemble. Pour moi, ils vont ensemble, ces trois albums. Ils ont chacun 14 morceaux. Ils font chacun à peu près la même durée. Oui, il y a pas une grande différence entre les albums, je trouve, mais je sais pas, en fait, ça c'est mon avis, j'ai peut-être pas assez de recul pour en parler.
Alors, il y a trois albums aujourd'hui. Est-ce que pour vous, un album ou cet album-là, Rose Fluo, c'est un récit, c'est un voyage, c'est une image, ou est-ce que c'est pour le coup une couleur, Rose Fluo ?
Rose Fluo, c'est un voyage fluo. Parce que oui, c'est une couleur, effectivement. D'ailleurs, le premier morceau de l'album s'appelle Fluo. Il dure 9 minutes, donc c'était vraiment...
Et j'aurais bien aimé le passer, mais 9 minutes, c'est un petit peu long. Donc je recommande à tout le monde de l'écouter.
C'était histoire d'annoncer la couleur, quoi. Mmh. J'avais pas envie de... L'album s'appelait Rose Fluo. Je me voyais mal démarrer l'album avec une intro...
Une nappe.
Non.
Fallait que ça parte tout de suite.
Oh, ouais, il faut que ça parte tout de suite, oui.
Fluo, rose. Il paraît qu'il va y avoir une rose Irène Reisen, c'est vrai ?
Oui, exactement. En fait, j'ai fait la rencontre donc, d'un rosieriste qui s'appelle André et Ève, dans la région centre, vers Orléans. Et j'ai choisi ce rosier parmi d'autres rosiers en observation il y a déjà 2 ans. Donc, et puis, en fait, voilà, chaque rosier est baptisé, mais il faut choisir parmi des rosiers pour justement voir si il n'y a pas des champignons qui se développent sur les feuilles, comment la rose, comment le parfum de la rose évolue dans le temps. Donc j'ai choisi un rosier. Il est très beau. Il a une grosse fleur qui fait la taille de ma main, blanche avec des nervures roses sur le dessous. Et ensuite, il a été, il a subi des greffes. Enfin, je ne sais pas. Je connais pas trop ce milieu. Tout un travail. Et il devrait voir le jour au mois de mai.
C'est une belle idée. Alors, pour écouter un titre de cet album, Rose Fluo, il a fallu choisir, c'est toujours très compliqué. J'ai choisi Thérèse.
Très bon choix.
Très bon choix.
C'est...
Ah bon ?
Ouais.
Ah, écoutez. Alors, vous allez nous raconter comment ce titre-là est né. Ça commence comment, Thérèse ?
Alors, le titre est né de Rita. J'ai fait un morceau en l'honneur de Sainte Rita en 2017, c'était mon EP Rita, qui est sorti avant mon premier album.
Sainte des cas désespérés.
Ou là, on peut dire la sainte de l'impossible, si on veut être un peu moins noir. Et puis,
ça revient au même.
Ça revient au même, d'accord. Et puis dans ma véranda, j'ai pas mal de petites effigies, des petites statuettes et tout ça. Et puis j'en prends une et puis j'envoie une photo à une amie à moi qui me dit « Mais c'est pas du tout Sainte Rita, ça c'est Sainte Thérèse, Irène. » Oh, je dis « Bon, d'accord. » Je dis « Bah écoute, le prochain morceau, la prochaine fois, je ferai pour Sainte Thérèse. »
Thérèse de Lisieux.
Sainte Thérèse de Lisieux. Et je trouve sa vie très belle. Et sur son lit de mort, elle a demandé à ce qu'une pluie de pétales de roses tombe du ciel. Et je trouve l'image vraiment magnifique. Et je suis repartie d'un morceau de Soul Wax avec un featuring de Chloé Sivigny, où justement il y a la prière qui est chuchotée, mais en anglais. Et j'ai repris le texte et je l'ai traduit en français en enlevant tout ce qui était un peu trop pieux.
C'est le souvenir des études.
C'est ça. Ça fait un beau morceau ça parle de fleurs, ça parle de roses, et je crois que c'est mon morceau préféré de l'album, en tout cas. Et bah, je récite cette prière à Sainte Thérèse. À l'époque, pour le morceau Rita, je récitais la prière à Sainte Rita, mais à l'envers, qu'on pouvait déchiffrer en passant le vinyle à l'endroit avec les mains. Donc voilà, ça fait sens. Et la prochaine sainte, je ne sais pas laquelle ce sera, on va voir, mais j'en ferai sûrement un troisième.
Pour l'instant, c'est Thérèse. Irène Reisel, c'est ce fin de morceau.
Ouais.
Parce qu'effectivement, quand on enregistre un disque, bon, on l'enregistre, mais après, on ne réécoute pas si souvent que cela.
Non.
Vous entendez quoi quand vous écoutez votre musique? Vous entendez que les défauts, vous, c'est ça?
Un peu, mais pas sur celui-là. C'est celui-là, à chaque fois, je suis transportée, je ne sais pas. Je crois qu'il a un côté spirituel.
Ça, c'est Thérèse. Hein. Merci Thérèse.
Mais je suis sûre. Ouais. J'en suis sûre.
Alors, est-ce qu'elle vous accompagne en tournée? Est-ce que vous avez une effigie d'elle avec vous ou pas?
Non, Sainte Thérèse, non, Sainte Rita, oui, je l'ai
Sainte Rita, oui. Bon. En tournée, en ce moment, les concerts avec vous sont aussi très particuliers. Je voudrais quand même qu'on évoque cette dimension de votre pratique. Mais avant d'en parler, on va écouter une consoeur, Rebecca Warrior, que je recevais il y a 2 ans dans cette émission.
J'ai toujours considéré que la scène était vraiment comme une sorte de grande messe, une grande cérémonie de communion avec les fidèles. Donc je suis assez, enfin c'est quelque chose d'assez sacré pour moi. J'y suis très attentive et j'adore monter sur scène, mais parce qu'il y a ce partage, quoi. Donc c'est le moment où en fait on peut pleurer tous ensemble, on peut aussi redevenir un peu animal, danser, refaire sortir des instincts qui me sont très chers, quoi. Parce que la musique véhicule ça aussi, elle véhicule vraiment, il y a une sorte de foi quoi dans la musique.
Ça c'est le ressenti de Rebecca Warrior pour vous, Irène Reyzel, comment est-ce que vous ressentez la scène comme elle?
C'est très juste ce qu'elle dit. Oui, oui, c'est exactement ça, parce que dans nos musiques, dans le travail de Rebecca ou le mien, il n'y a pas de parole, à part l'asthme
orthothérèse,
qui est
très particulier.
C'est très particulier. Il n'y a pas de parole, c'est un voyage. On démarre et on ne s'arrête pas pendant 1h30 ou le temps du live. Donc, on emmène les gens et ça va au-delà des mots. Donc, c'est vrai que moi, je vois les gens se transformer au fur et à mesure du concert où ils se lâchent et y en a qui sont plus ou moins timides au début, puis après ils décroisent leurs bras et puis ils se laissent aller.
Vous avez comme ça, selon les concerts, des points de repère dans la salle, des gens dont vous regardez particulièrement l'attitude?
Alors en début de concert, je regarde pas trop les gens parce que ça me perturbe, je reste concentrée, mais dès que moi je me sens mieux, que je me dis ok, tout marche, tout va bien, je commence à regarder les gens et ça j'aime beaucoup parce que je les reconnais ou on se reconnaît. Je suis très physionomiste, donc
ah ouais,
ouais. Donc les personnes qui viennent voir les shows et qui reviennent, je les reconnais.
Oh.
Et on se reconnaît. Parfois même, je connais leur prénom parce que je signe les disques à la fin et je me souviens du prénom. Donc parfois, ils sont étonnés.
Vous êtes hyper mnésique. Peut-être.
Oui, peut-être. C'est lié à la photo.
Mais puisqu'on parle de scène, on aurait pu le faire avant, mais il faut absolument parler de ciseaux d'El Givry. Génial percussionniste, votre complice de longue date. On sent qu'il y a quand même une forme de symbiose entre vous. Enfin, c'est vraiment très impressionnant la façon dont vous faites ensemble musique. Ça, c'est le travail d'années. Enfin, c'est quelque chose à la fois de, j'imagine, qui a dû être immédiat, mais qui se peaufine avec le temps.
C'est-à-dire que on a les mêmes goûts musicaux.
Ça aide
vraiment. Et je sais qu'en fait, là, sur le processus, je compose un morceau et puis il intervient à la fin. Il me demande de lui envoyer des extraits pour les écouter, lui, quand il balade le chien dans les champs. Il les écoute et il imagine où est-ce qu'il va placer, lui, ses percus. Et puis ensuite, il vient en studio et il place ses choses, mais de manière très naturelle. Et puis, j'ai rarement des choses à reprendre. Enfin, c'est souvent bon du premier coup. Enfin, moi, en tout cas, ce qu'il propose est toujours bien. Donc, en général, si je dis rien, c'est que c'est bien. Et quand je fais même en live, si je dis rien, c'est bien. Et dès que je fais les gros yeux ou que je me tourne brusquement vers lui, c'est qu'il y a un problème.
Alors, ça peut être quoi, un problème en live, justement, entre vous?
Par exemple, s'il fait une relance alors que j'avais pas fini, ou voilà, il faut qu'on se regarde tout le temps, parce que parfois je m'arrête avant. Enfin, voilà, on se regarde beaucoup, mais il me connaît. On a des codes. C'est comme avec l'ingénieur lumière qui est en face de moi, qui s'appelle François-Xavier Coipel, qui peut-être m'écoute ce soir. Salut FX.
Ouais.
J'ai toute une équipe, François Vasseur au son, FX Coipel à la lumière, et Cyril Floquet à la régie. Si je ne le dis pas, il va être vexé.
Il en reste quoi ?
Avec FX, on a aussi un code, c'est-à-dire quand je lève le menton, il envoie les strobes ou les choses comme ça. Donc, c'est quand je fais mes relances, donc... Oui, voilà, on a tous des codes et c'est vrai qu'avec Ciseaux, on s'entend très bien et c'est très fluide et c'est l'homme, c'est l'homme-machine sur scène. Et il dégage beaucoup, il donne beaucoup. Et je crois qu'il ajoute un côté organique qui est très apprécié.
Une énergie.
Et une énergie.
Très forte.
Moi, je suis un peu plus...
diaphane.
Voilà, un peu plus diaphane.
Prêtresse, comme dirait Rebecca Warrior.
Oui, hein. Voilà. Et c'est même drôle parce que souvent, avant les concerts, il y a le technicien plateau, il va dire « Alors, je te mets une serviette, une bouteille d'eau sur ton... » Non, 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 rien. Alors voilà. Lui, par contre, lui, il faut deux serviettes, deux bouteilles d'eau.
Au moins. Au moins. Mais le résultat est là. Alors, je ne vais pas donner la date de tous les concerts parce qu'il y en a beaucoup, mais en annoncer quand même quelques-uns. Dire que ce nouvel album Rose Fluo est sorti le mois dernier. Les prochaines dates, alors, après-demain, vous serez à Bordeaux, au Krakatoa. On sera le 23. Le 29, ce sera à Grenoble, à la Belle Électrique, au Sucre, à Lyon. C'est déjà complet, le 1er mars, mais bon, il y aura les Arcs, Nantes, Rennes, Toulouse, à Montpellier, au festival I Love Techno le 30 mars. Il y a Besançon, Biarritz, Bruxelles, les Nuits Botaniques, toujours un bon endroit où jouer. À Marseille, à Saint-Brieuc, l'Olympia de Paris est complet. Neuchâtel, ensuite Arras, Main Square Festival, très important aussi, à Mont, à Dour, puis ce sera Montréal, avant de revenir en France du côté de Château-Gontier. Là, on est déjà au mois d'août. Merci beaucoup, Irène Rezel, d'avoir été notre invitée.
Merci à vous, vraiment.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Et de 4 pour centume, Mathias Rouvali, le chef d'orchestre finlandais, continue d'enregistrer l'intégrale de l'œuvre symphonique de Jean Sibelius avec l'Orchestre symphonique de Göteborg. Pour ce quatrième volume, c'est logiquement la quatrième symphonie créée en 1911 par le grand compositeur finlandais qui est au cœur de ce disque. Elle est accompagnée dans l'album par La nymphe des bois, un poème symphonique que Sibelius créa en 1895. Cette pièce lui fut inspirée par un morceau de folklore suédois transposé en poème symboliste par Victor Rydberg. Il relate l'histoire de Björn, un garçon beau et fort qui succombe à la tentation d'une nymphe des bois au péril de son âme. Le destin tragique du jeune homme condamné est symbolisé par une marche funèbre faite d'échos incessants entre les violons et les cuivres. C'était la nymphe des bois de Sibelius par Santu Matthias Rovali et l'orchestre symphonique de Göteborg.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir ?
Bonsoir Arnaud, dans toute la France sont proposés aux lycéens, pendant les vacances, des stages de préparation aux écoles d'art et de design. Alors ce soir, je suis à l'ENSI, École Nationale Supérieure de Création Industrielle, dans le 11e arrondissement à Paris. Et c'est Sonia Daoui, responsable du programme Égalité des Chances pour la Fondation FIMALAC, qui nous accueille. Alors à quoi il sert ce stage ? Combien il y a de stagiaires et qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Alors, il y a 30 lycéens issus de toute la France et de filières générales, technologiques et professionnelles qui sont là pendant une semaine pour être en immersion dans une école d'art et design et découvrir comment fonctionne cette école, comment fonctionne le principe des ateliers, des projets, rencontrer des étudiants, rencontrer des professeurs de cette école et à la fin ressortir mieux préparés et davantage prêts à passer les concours supérieurs des écoles d'art et design.
Ce que vous leur proposez aujourd'hui à ces 30 lycéens qui sont là, c'est finalement de les préparer à postuler aux écoles d'art et de design, mais pas seulement là où on se trouve.
Exactement. Chaque année, une école d'art et design différente accueille ce stage Égalité des Chances. Et d'ailleurs, il y a un second stage qui se déroule à l'ESSAD Saint-Étienne. Et donc, en fait, l'idée, ce n'est pas tant de préparer à cette école-là, mais à l'ensemble du réseau des écoles d'art et design qui fonctionnent un peu de la même façon. Et donc, les concours, qui sont des concours très sélectifs, nécessitent des codes et des façons de faire qu'on n'apprend pas forcément dans un lycée, qu'on n'a pas toujours par sa famille, ses proches. Et donc, l'idée de ce stage Égalité des Chances, c'est justement de remettre à niveau et donner confiance à ces élèves qui n'auraient pas forcément l'occasion de le faire via leur entourage personnel.
Alors, le stage dure une semaine. Là, les étudiants viennent de rentrer dans les ateliers. Vous pensez qu'on peut essayer de se glisser dans un d'entre eux ?
Bah, tout à fait, il y a différents ateliers, atelier bois, atelier maquette, on peut aller les voir.
Super, bah, merci, on vous suit, merci beaucoup. Donc là, on est sous cette grande verrière du bas du bâtiment.
Exactement.
Et on rentre dans un des ateliers. Ah oui, les étudiants sont déjà dedans.
Alors là, on va rentrer dans l'atelier métal.
À l'endroit où on va la couper, les gouttes de métal vont tomber en fusion et elles vont être directement dans l'eau, donc elles vont refroidir et vont moins fumer.
Bonjour, je ne veux pas vous déranger, mais vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire ?
Alors là, je suis en train de peindre sur des plaques en plastique. Donc c'est des plaques, c'est exactement la même matière qu'un frigo. Et en fait, bah là, je suis en train de le sécher et ça va servir à faire les formes que vous voyez juste là-bas.
Très bien. Et donc vous faites partie des stagiaires de ce stage d'égalité des chances. Vous venez d'où ?
Je viens d'Alsace, de Strasbourg.
Et vous avez postulé pour faire ce stage ?
Oui, c'était grâce à mon lycée que j'ai postulé.
Parce que vous aimeriez bien, après le bac, intégrer une école comme celle-ci ?
Oui. Oui, plus école d'art que design, mais en tout cas oui.
Bon, je vais vous laisser sécher votre panneau jaune.
Merci.
Là, pour l'instant, je fais que pointer. C'est vraiment deux petits points de colle histoire de figer le positionnement. Donc là, il y a un petit point là, je vais faire le même là-bas. Et puis après, quand j'aurai bien pointé un peu dans tous les coins, là, je pourrai le coller pour de vrai.
Ça, ce sont des formes que vous avez créées ?
Oui, donc c'est des formes qu'on a créées à partir de supports qui sont... Là-bas,
ouais.
Donc des supports en bois ou en espèce de mousse solide et qu'on a ensuite mis dans la thermograveuse, thermoformeuse, pour que le plastique en prenne la forme et ensuite je les ai peints et ils seront découpés et accrochés sur la création.
D'accord. Et vous venez d'où ?
Moi je viens de près d'Orléans.
Et vous aimeriez intégrer une école comme une école de design ou une école d'art comme celle-ci ?
Oui, plutôt une école d'art dont l'idée de faire plutôt un métier comme illustratrice ou quelque chose dans ce genre-là.
Et ce stage, il vous apprend ce que c'est ce genre d'école ? Ça vous ouvre des perspectives nouvelles ?
Oui, ça me montre à quoi ressemble une école de création, d'art, Et c'est aussi super intéressant de faire des activités nouvelles, parce que là, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, le modelage du plastique.
Oui, vous apprenez une nouvelle technique.
Voilà.
Merci beaucoup. Je vous laisse finir. Merci. On est bien dans l'atelier bois, il y a des morceaux de bois, des copeaux de bois, des tours à bois, des machines à bois de partout. Il y a une maquette de banc juste derrière nous et tous les étudiants qui sont en train de travailler le bois un peu partout.
Et le suivant, ici, c'est à quoi après ici? Comment c'est installé? Parce que je me demande si c'est pas plutôt ça, moi, pardon. Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est ouais. Ça, il me semble. Hein.
Oui.
Et après, il faut voir comment s'installe celle-là ici.
Ça va ici.
D'accord.
Et il y aura de l'autre côté aussi pareil. Et
ouais, on va faire un d'accord.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, les stagiaires, les étudiantes?
Alors, c'est des élèves qui donc sont dans un programme d'accueil à l'école un peu particulier. Donc, ce ne sont pas des élèves de l'ENSI, sauf qu'ils sont immergés dans l'ENSI pendant donc une semaine. Et là, dans le cadre des ateliers, on les accueille pour pouvoir leur montrer un peu la faisabilité d'objets en bois à partir de démarches de création. Donc c'est ce rapport entre la création et la fabrication. Donc là, je leur propose, dans le cas précis de cette séquence qui aura duré au total 2 jours d'atelier, de commencer à concevoir et à fabriquer des petits objets en bois avec une diminution des éléments techniques complexes qui pourrait être
un frein pour leur
conception et leur fabrication, et leur proposer un système modulaire à partir de lattes de bois et de liens qui reproduisent un petit peu les assemblages du bois, mais sans la complexité de l'usinage.
Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, je les regarde autour de moi, il y a beaucoup de filles dans cet atelier. Est-ce que les filles prennent aussi possession de ces éléments qui étaient peut-être plus techniques avant?
À l'ENSI, de manière générale, de toute façon, les femmes ont une présence assez forte dans la création, et y compris aussi dans les ateliers, bien entendu. Quand j'étais jeune, les femmes ne pouvaient pas se former à la menuiserie, les écoles ne les accueillaient pas. Et après, dans une pratique plus personnelle, dans des ateliers où j'ai été menuisier, et bien entendu à l'école, j'ai beaucoup renforcé cette présence et cet accueil possible pour leur montrer qu'elles avaient exactement...
Les mêmes possibilités qu'un garçon.
Les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes possibilités de développer une réflexion technique, une réflexion sur le matériau, de la méthodologie, et qu'elles avaient toutes les mêmes aptitudes. Et là.
Moi, c'est Abdoulaye, je suis designer et je suis cofondateur du studio All House.
Et vous êtes aussi un ancien élève, ou un ancien, en tout cas, bénéficiaire du stage Égalité des Chances qu'on est en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, ce stage-là?
Moi, tout à fait. J'ai fait le stage Égalité des Chances en 2009. Et du coup, moi, j'étais au lycée et ça m'a vraiment apporté une vision du design, parce que moi, je ne connaissais pas spécialement les écoles d'art, les grandes écoles d'art. Et voilà, ça m'a donné tout le programme. Ça m'a permis de connaître, en fait, ces écoles. Et ensuite de postuler à une prépa et ensuite à ces écoles-là.
Vous saviez avant de venir ici que vous vouliez être designer, ou c'était vraiment une tentative ou...
En troisième, à la conseillère d'orientation, je lui ai dit que je voulais être dessinateur industriel. C'était flou. C'était précis, mais c'était flou par rapport au parcours. Je ne savais pas comment y arriver. Et dans ma prépa, en fait, on a eu accès vraiment à des cours de volume, vraiment une initiation en fait à tout, au graphisme, etc. Et un jour, il y a un intervenant de l'ENSI qui est venu présenter un bouquin qui s'appelle Matériothèque. Et j'ai tout de suite su que je voulais faire cette école, donc j'ai tout fait pour y accéder.
Ils ont vraiment les mains dans la matière là.
Ah, pour le coup, c'est ils ont les mains dans la matière. Après, ce qui est le plus important chez nous, entre guillemets, en tant que designer, c'est vraiment toute cette partie idéation qu'ils ont eue au début, parce que c'est sur ça qu'ils vont être jugés pour rentrer dans les écoles. Mmh. C'est sur leur leur créativité, entre guillemets, et leur manière de penser.
Sur la conception ?
Exactement, parce que je pense que la technique, ils ont le temps de l'apprendre en 5 ans d'études. Là, c'est plus le potentiel créatif. Et on ne le voit pas tout de suite. Moi, je l'ai vu à la fin de mes études, que c'était ça, entre guillemets, le plus important dans un métier designer. C'est vraiment la démarche et la vision qu'on peut donner à un projet. Et ils l'ont eu les premiers jours. Et là, en mettant les mains dans la matière, avec le rendu qui va se passer demain, je pense qu'ils vont bien expliquer tout le cheminement. Et ça, je pense que c'est un bon projet pour leur portfolio pour rentrer dans les écoles par la suite.
Merci beaucoup.
De rien.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Alors Arnaud, connaissez-vous le principe des artothèques ? Il en existe une trentaine en France et demain, je serai à celle de Caen pour découvrir ces lieux publics qui permettent à tous d'emprunter des œuvres d'art.
À demain Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.